des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour, le parcours aujourd'hui est celui de Jean Raspail qui va nous accompagner dans cet entretien, un entretien bien particulier à Canal Académie. Il nous fait l'amitié de sa présence. Jean Raspail, écrivain et voyageur, ainsi que vous vous définissez. Je précise qu'il existe même un site internet qui vous est consacré, Jean Raspail. JeanRaspail.net, site officiel. Ce sont en quelque sorte vos admirateurs qui ont fait ce site, puisque vous, vous n'y contribuez pas du tout. Bonjour Jean Raspail.
Bonjour.
C'est vrai que vous n'écrivez pas une ligne sur JeanRaspail.net ?
Non. D'abord, je ne sais pas le cheminement technique de cet exercice. Et je n'ai pas l'intention de m'y mettre, d'ailleurs. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et c'est un professeur de lettres très brillant qui habite Lille, auquel je rends hommage et qui a fait ça depuis quelques années. Au début, sans m'en parler, d'ailleurs. Mais j'ai eu la grande surprise de rencontrer des journalistes qui savaient beaucoup de choses. Je leur ai demandé d'où ça venait, venu de ce site. Alors, j'ai pris contact avec lui, et comme c'est un personnage très, très, très sûr, très, très loyal, nous nous entendons très bien. Et il a quasiment carte blanche, et je débrouille très bien.
La technique a du bon.
Il s'appelle Philippe Hemsen.
Philippe Hemsen, exactement. C'est lui, H-E-M-S-E-N, je crois, qui s'occupe de votre site internet. Alors, la technique a du bon, Jean Raspail, bien que vous soyez en quelque sorte mis à nu.
Non, c'est parce que je suis incapable. Bien sûr que la technique a du bon.
Mais vous voilà dévoilé, en quelque sorte, sur la place publique.
Ah non, quand même.
Ce n'est pas quelque chose qui vous effraie.
Non. Il y a comment dirais-je ? Je ne réponds qu'aux questions que je veux bien répondre quand le site m'intéresse. En plus, ce n'est pas un site interactif.
De présentation seulement.
Voilà, exactement.
Mais en tout cas, très bien fait, très riche.
Oui, je le recommande vivement.
On pourra retrouver l'essentiel de votre œuvre. Mais alors, il y a une phrase en exergue qui est quelque peu inquiétante quand même pour nous autres, ici même à Canal Academy. Sortis de leurs livres, les écrivains n'ont rien à dire, rien à ajouter. Mais alors, vous êtes muet ?
Non, c'est pas ça, mais je l'ai toujours pensé, mais on est obligé, on se laisse aller à jouer le jeu, je peux pas dire médiatique, mais enfin le jeu de la communication, et on se laisse entraîner à répondre, souvent avec plaisir, comme ce matin, si vous voulez, au jeu des questions-réponses. Mais je suis persuadé, en effet, que ça n'apporte pas grand-chose à l'œuvre. Est-ce que vous connaissez la célèbre réponse d'un écrivain très célèbre, dont j'ai d'ailleurs pour le moment oublié le nom, mais ça va me revenir, peu importe, qui est mort il y a quelques années, un Anglais. Et quand on lui demandait de venir le voir, il demande l'interview, il répondait immanquablement « Vous avez mangé le foie gras, pourquoi voulez-vous connaître l'oie ?» Voilà.
Vous refusez des interviews de temps en temps ?
Ah oui, bien sûr. Oui.
Vous sélectionnez les médias comme ce... Vous sélectionnez les médias ?
Arthur Koestler.
Oui.
C'est lui qui avait répondu ça. Et c'est une histoire qui n'est pas connue, mais je connaissais bien, non pas Arthur Koestler, mais un de ses amis intimes, et qui m'a donné. Et cette réponse, quelquefois, je la fais dans des lettres, sans citer que c'est Arthur Koestler. Vous avez mangé le foie gras, pourquoi voulez-vous connaître l'oie ? Enfin, je suis là, c'est pas pour vous faire la tête.
Ben oui, non mais justement, voilà, nous apprécions d'autant plus votre présence, pour nous parler de vous-même, et puis aussi, bien sûr, de Septentrion. Alors, il faut quand même présenter les choses, parce que ce n'est pas votre dernier roman,
non.
Puisque justement, vous n'avez pas changé une ligne à Septentrion.
Non. Oui, ce n'est pas mon dernier roman.
Chez Robert Laffont.
C'est la dernière parution, en fait, c'est une réédition d'un roman qui a été publié chez Robert Laffont aussi en 1979. Et j'ai la chance d'avoir des éditeurs. J'en ai deux ou trois, même si on compte Fallois, Albin Michel, Robert Laffont et Bernard Fallois, qui réimpriment mes livres. J'ai au moins une quinzaine de livres qui sont constamment réimprimés, non pas de grandes quantités, mais ils sont toujours disponibles. Ça, c'est une grande chance pour un écrivain. Et Septentrion, vu qu'il était assez ancien, n'avait jamais été réimprimé. Moi, j'aime beaucoup ce livre. Il y a tant de choses qui me concernent. Et qui sont, si vous voulez, je voudrais bien ne pas parler avec prétention, mais je vais le faire quand même, qui sont une sorte de quintessence de Raspail. Voilà, le Septentrion, c'est du Raspail concentré. D'ailleurs, c'est un livre dont je me suis inconsciemment servi pour d'autres par la suite. Bon, et quand il a été question de le réimprimer, j'ai dit à mon éditeur que je préférais une réédition, c'est pas la même chose, c'est une réédition. Il y a de nouveau une mise en place dans les librairies, on en parle un peu, très peu d'ailleurs, parce que les journalistes littéraires, n'ayant même pas le temps de rendre compte des livres
bien souvent,
qui viennent de paraître, pourquoi s'intéresserait-il à une réédition, n'est-ce pas?
Ah bah justement, remarquez, voilà. S'il y a une réédition, c'est qu'il y a une raison.
Oui, il y a une raison. Voilà, alors c'est donc ce livre qui a réapparu. C'est un livre qui a des défauts, puisque je peux le juger quand même 30 ans après. C'est un livre qui a des défauts. Je commence par les défauts, si vous voulez.
Oui.
Les défauts, c'est peut-être un excès de symbolisme, des incidents dans l'action, ça part quelquefois un peu dans toutes les directions.
Excès de symbolisme d'abord, que voulez-vous dire par là?
Je veux dire par là qu'il se passe beaucoup de choses dans ce livre et chaque action, enfin une grande partie des actions qui s'y passent peuvent être considérées d'un autre point beaucoup plus élevé, même des détails par exemple. C'est-à-dire que symbolique en sens qu'on peut interpréter telle ou telle des séquences de ce livre de façon différente. Par exemple, puisque c'est un train qui s'enfuit vers le nord, et dans le nord glacé, et par exemple, les voies du chemin de fer derrière disparaissent au fur et à mesure que le train avance.
C'est ce qu'on voit sur la couverture.
À un moment, il y a une étoile dans le ciel qui apparaît. Et il y a des choses comme ça tout le temps. Et le narrateur... Je dis le narrateur, c'est-à-dire que c'est écrit à la première personne par quelqu'un qui raconte ce voyage et qui est dans ce fameux train. Et le narrateur raconte ça comme si c'était simple, parce que lui-même est dans une atmosphère assez étrange. Alors, si vous voulez, c'est peut-être pas tout à fait assez terre à terre. Voilà. Mais il y a 30 ans, les symboles fonctionnaient mieux.
Et les symboles... sont peut-être ce qui rend une œuvre impérissable, précisément.
Oui, mais il y en a beaucoup. Et puis, quel était le deuxième défaut que j'avais?
Trop d'actions.
Oui. Ah oui, il y a beaucoup d'actions différentes.
Ça, on ne s'en plaindra pas forcément.
Mais il y a 35 personnages, donc ça fait du monde. Voilà. Peut-être il aurait pu être un peu plus simple.
Bon, les qualités...
Mais finalement, il est sorti comme ça. Mmh. Et alors, c'est les défauts. Mais pour les qualités,
voilà.
Je peux vous dire que je ne l'avais pas lu depuis... 29 ans, je me suis remis dedans quand il était question de réécrire, ce que je ne fais jamais d'ailleurs, et je me suis dit bon Dieu, c'est incroyable que j'ai écrit des scènes comme ça, tout, j'ai trouvé ça, j'ai été emporté par la lecture, et je l'ai lu comme si c'était quelqu'un d'étranger qui l'avait écrit, et j'étais vraiment emporté parce que l'histoire est grandiose. Grandiose.
L'histoire, vous n'allez pas la raconter. Je vais lire un petit extrait, si vous le voulez
bien,
Jean Raspail, justement, puisqu'on a commencé comme ça sur Septentrion chez Robert Laffont. C'est une réédition d'un livre de 1979. Les signes s'accumulaient sans que nous en percevions tout au nord du pays, loin de la capitale et de ses clochers dorés, les exactes conséquences. Nous comprenions vaguement comment, sans savoir réellement pourquoi. Tout allait vite avec des modifications tangibles dans notre vie de tous les jours, mais rien n'était net. Tout changeait dans le flou, comme si une sorte de guimauve envahissante, poisseuse et tenace, transfusée dans les artères vivantes du pays, gelait les cœurs et les âmes et aussi les rouages de l'État, les activités de la nation, pétrifiant jusqu'au corps profond de la population. Dans quel but? On pouvait compter sur les doigts des deux mains, ce qui... On était à peu près conscient dans notre petite ville à Saint-Basile, chef-lieu du Septentrion. Tout juste, comprenions-nous que s'avançait rapidement de façon informe et inexorable une sorte d'éternité différente. Rien ne ressemblerait plus à hier, rien ne changerait plus jamais une fois les choses accomplies. Je crois que je tiens le mot-clé. Cette annonce d'une éternité engendrait chez chacun d'entre nous, non pas tellement la peur diffuse, impalpable, mais la paralysie. Quand l'homme veut changer l'homme, se substituant au Créateur, qu'il le change et qu'il l'a changé, est-ce qu'on peut, humainement parlant, s'opposer à la marche de cette éternité nouvelle ? Voilà, extrait de Septentrion, en 1979.
C'est le début. Vous voyez, on est déjà dans le symbole.
On est déjà dans le symbole.
Ouais.
C'est le symbole d'une mutation.
Oui. Oui. C'est le symbole d'une mutation. C'est le symbole d'une mutation, et cette mutation, en fait, est le phénomène de massification d'une population. Hein. Et
un pays fictif, mais c'est nous-mêmes, bien sûr.
Oui, c'est ça. Et cette massification, qui est une chose qu'on aperçoit maintenant, il y a des tas de symptômes aussi, aujourd'hui, chez nous. Cette massification, si vous voulez, je l'ai pris de façon romanesque. Et j'en ai tiré une histoire, un récit. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Puisqu'encore une fois, c'est une vision symbolique de notre monde actuel. Et ce sont 35 personnes qui refusent ce phénomène de mimétisme terrifiant qui atteint l'humanité, de massification dans sa vie, ses réactions, etc.
Guimauve envahissante.
Qui refuse ça et qui fiche le camp. Or, le seul moyen de quitter tous ces gens-là, de les fuir, c'est d'embarquer sur un petit train qui s'en va vers le nord. Alors là, on devient un nez dans le récit.
Un train dont les rails se délitent.
Puisque vous, oui, c'est ça. Puisque vous avez cité le début du livre, je rappellerai, ça illustre bien le livre. J'ai mis une phrase en exergue, ce que je n'ai pas toujours, mais cette phrase représente très bien le livre. Elle est de Roger Nimier. Je pense que ça doit être dans Les Épées de Roger Nimier. Je ne garantirai pas, je ne sais pas. Alors la phrase c'est « Et cette terreur soudaine d'être confondu parmi eux comme on le serait dans une tribu de singes ». Lui aussi ne voulait pas être confondu avec la masse. Et j'ai reçu, si je puis dire, un troisième renfort, tout à fait par hasard récemment, qui est celui de Richard Millet. Richard Millet est un personnage à la fois très connu et ignoré. Il est éditeur chez Gallimard. Il a écrit quelques romans pour, non pas pour Epifiou, mais pour gens qui savent vraiment lire le français et qui aiment bien le bon français. C'est quelqu'un qui a une certaine désespérance et qui a écrit un livre que je me permets de recommander à la terre entière et qui s'appelle Le désenchantement de la littérature de Richard Millet, son dernier paru chez Gallimard. Et il a été interviewé il y a peu de temps par un journal qui s'appelle La Nef. Et il dit « Je suis terrifié par la masse. Et il faut absolument que j'arrive à me situer par rapport à elle. Je suis terrifié par la masse et par, comment dirais-je, l'immense fracture, je cite de mémoire, l'immense fracture esthétique qui nous sépare de la masse. » Voilà. Nimier, Richard Millet, Aspail, il y en a d'autres finalement.
Des dissidents
voilà. Ce ne sont pas des dissidents, c'est des gens. Je dirais que c'est un thème littéraire qui ne doit peut-être pas être nouveau, à mon avis. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Le thème qui fait qu'on finit par être absorbé par le style du temps, par les modes, par les habitudes, ce qu'on appelle aujourd'hui, si vous voulez, le consensus, le conformisme, le politiquement correct. Il y en a des quantités de choses quand même, les modes idiotes. Et en plus, maintenant chez nous, enfin dans le monde actuel, les pays se mettent à se ressembler à part la couleur de peau et encore, les pays se mettent à ressembler de plus en plus, les modes de vie, l'alimentation, tout n'importe quoi, les hôtels, les bâtiments, les rues, les bagnoles, les costumes, tout.
Mais ça, c'est le monde global de l'Occident.
C'est
mais uniquement de l'Occident.
Oui, peut-être, oui, si vous voulez. Voilà. Oui, d'accord, mais c'est mon monde à moi, l'Occident. C'est aussi celui de Nimier, celui de Richard Millet. Voilà, et on est piégé là-dedans, dans cette guimauve, et alors on est bien obligé d'y vivre, c'est pas une catastrophe quand même, mais ça mérite quelques livres pour essayer d'éclairer tout ça. Hein.
Jean Raspail, votre parcours aujourd'hui, vous restez avec nous parce que vous avez soulevé quantité de questions, on va y revenir dans quelques instants.
Il avait pour parrain le tsar Alexandre III et pour père le grand acteur Lucien Guitry. Sacha Guitry a conquis le public français sur scène et au grand écran. Canal Académie dédie une série d'émissions à Guitry, avec celui qu'il a connu personnellement, Alain Decaux, avec celui qui s'y réfère à toute occasion, Jean-Marie Rouard, avec celui qui admire son naturel, Félicien Marceau. Nous vous proposons de décrypter le cinéma de Sacha Guitry avec les commissaires de l'exposition de la Cinémathèque, et d'analyser la figure de Napoléon dans ses œuvres. Canal Academy fête enfin Guitry et la comédie musicale Guitry et Yvonne Printemps. C'est sur Canal Academy en partenariat avec la Cinémathèque française.
Mais mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme, un homme. Mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, à vous penser.
Jean Raspail pour ce parcours à Canal Academy sous la coupole. Jean Raspail qui nous fait donc l'amitié de sa présence pour parler de son œuvre, bien sûr, et en particulier de Septentrion, qui est la réédition d'un ouvrage écrit en 1979. C'est aux éditions Robert Laffont. Alors Jean Raspail, puisque vous disiez que justement Septentrion, c'est la quintessence de vous-même, donc la colonne vertébrale en quelque sorte de votre œuvre, je reviens sur un point que vous avez souligné, ce mimétisme qui vous effraie, et le fait que nous soyons absorbés dans des modes idiotes, dans un comportement qui est formaté constamment, tous ces conditionnements. En fait, vous n'aimez pas la société indifférenciée, c'est ça que vous n'aimez pas.
Oui.
C'est l'indifférence suscitée oui. par une société de consommation, somme toute, très anonyme.
Oui. Les gens croient qu'ils sont... On dit toujours qu'on est d'une période d'individualisme, c'est une blague.
Alors, c'est ce que je voulais vous demander,
c'est
justement.
C'est une blague.
Vous n'y croyez pas, ça?
Ah ouais, pas du tout. Pas du tout, là, ces gens ont la cervelle complètement formatée. C'est une blague. L'identité des comportements est vraiment étonnante. On est dans la société la plus moutonnière qui est... En tout cas, je parle pour la France en ce moment. Ça me suffit déjà. Il y a 65 millions de personnes là-dedans. On est dans une société extraordinairement moutonnière, prête à être conduite un peu n'importe où. Même les réactions dont on pourrait penser que ce sont des réactions spontanées, même celles-là sont fausses. Non.
Tout est de l'ordre du réflexe, du stimuli,
ouais.
du conditionnement.
Et la médiatisation de tout n'a pas arrangé les choses, naturellement. Je dirais même qu'elle en est en grande partie la cause, c'est sûr. Ça a multiplié le phénomène, la médiatisation de tout, la généralisation de la télévision, ce qu'on appelle le système interactif. Je supporte pas, moi, je suis pas du tout interactif. J'ai absolument pas envie d'être interactif avec quiconque, sauf ce matin, si vous voulez. Mais ce système d'être toujours en communication avec quelque chose, avec quelqu'un qui répond, de donner toujours son avis sur tout. Il y a qu'à écouter les radios, maintenant, il y a 10 minutes d'interactivité par heure. Tout ça est absolument odieux parce que finalement...
Sauf sur Canal Academy. Pas d'interactivité.
Finalement, les gens ne se rendent pas compte qu'ils parlent tous de la même façon et qu'ils disent tous la même chose. Il y a des quantités d'exemples comme ça. Je sais pas, on peut en piquer
mais
à droite à gauche.
Pardonnez-moi, mais en 79, ce n'était pas si clair que cela, quand même.
Non, ce n'était pas si clair que ça, mais je suis en général toujours un peu en avance.
Oui, c'est vrai.
J'ai écrit d'autres livres, enfin au moins un autre, où je suis...
Dont on va parler, d'ailleurs, aussi. Bah, on peut en parler, d'ailleurs, dès maintenant.
Orwell,
puisque...
c'est bien avant moi, je vous signale. Hein. George Orwell,
oui, mais...
bien avant moi. Big Brother est quand même une invention littéraire géniale. Qui correspond à quelque chose de concret actuellement.
Oui, mais la nuance avec vous, c'est que dans Big Brother, les personnages n'adhèrent pas à leur propre servitude. D'une certaine façon, ils essaient de se retirer de l'envahissement de Big Brother.
Ici, tout le monde y court.
C'est un changement notable.
Oui.
Parce que c'est intériorisé.
Oui.
Alors, le camp des saints, précisément, on ne l'a pas nommé... puisque ça reste l'œuvre qui vous identifie le plus au grand public. C'est 1972, juste avant, 6 années avant Septentrion. Il y a un commentaire, justement, sur votre site. Si avec le camp des saints, Jean Raspail avait, en somme, signifié son adieu à un monde dans lequel il ne se sentait plus guère à sa place, avec Septentrion, il tourne radicalement la page pour s'acheminer vers un ailleurs où il se dérobera aux vains débats de société. L'ailleurs, c'est le mythe. Donc c'est un cran au-dessus, mais c'est une appréciation que vous n'accréditez pas forcément. Vous dissociez les deux œuvres quand même. Hein.
Le camp des saints est avant et ce n'est pas le même problème, en fait. On va aller vite là-dessus, parce que d'abord, beaucoup de gens savent ce que c'est que le camp des saints. On en a quand même pas mal parlé. Il a été traduit en je ne sais combien de langues. Il est toujours...
Il y a un film
en librairie, enfin,
il y a un film,
dans
paraît-il,
le courant aux États-Unis. Il y a eu plusieurs tentatives d'accords cinématographiques et on est sans doute en train d'y arriver maintenant. John Borman, il y a pas mal d'années, voulait le réaliser, mais il fallait attendre qu'un certain nombre de tabous tombent pour qu'on puisse réaliser un film comme ça.
Sur le film, vous n'en savez pas plus pour l'instant.
Non, rien du tout.
Mais que c'est en voie.
J'ai tellement vu de choses avec le camp des saints que ça peut être manqué aussi. Mais là, ça, la touche, si je puis dire, a l'air bonne. Le camp des saints, c'est un livre d'une simplicité.
Évangélique.
Non, pas évangélique. Une simplicité littéraire complète. C'est comme les trois règles dans le théâtre du XVIIe siècle. Unité de lieu, de temps et d'action. Hein. Ça se passe il y a quelques années, mettons. Enfin, c'est contemporain. Il y a une flotte de bateaux rouillés, des vieux bateaux qui tiennent à peine la mer, qui sont partis, disons, du tiers-monde, pour simplifier, du sud. Qui sont partis du tiers-monde pour chercher une vie meilleure. Ce sont des milliers et des milliers de gens qui sont à bord de ces vieux bateaux, qui sont formés une flotte et qui se dirigent vers l'Occident, spécialement vers la France. Ils sont tous malheureux. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des malades. Ils sont désarmés. Ils sont 1 million sur cette flotte. Cette flotte s'échoue sur la Côte d'Azur.
Près de Saint-Raphaël.
Oui, à Saint-Raphaël. Non, c'est pas si précis de Saint-Raphaël. Elle s'échoue sur la Côte d'Azur et ce million de personnes sont prêtes à débarquer. Plus loin, enfin derrière, sont d'autres flottes qui attendent quelle va être la décision du gouvernement français et des gouvernements occidentaux d'ailleurs, quelle va être leur réaction. Si elles sont prêtes à suivre, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont 1 million ou même plus. Ils sont malheureux, ils sont pauvres, ils n'ont plus rien chez eux. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse entrer?
Ben on ne va pas tirer dessus.
Oh, est-ce qu'on tire dessus? Est-ce que... Voilà. Et s'ils entrent, eh bien c'est 3 millions qui rentreront le lendemain, et puis quelques mois plus tard, encore d'autres millions. Et ça s'appelle un raz-de-marée.
Donc la fin du monde européen.
Et la fin du monde européen, où c'est ça. Alors, il y a un choix primordial, la charité ou l'exacerbation de la charité ou l'exacerbation de l'identité ou le respect de sa propre identité. Voilà, c'est tous ces problèmes-là qui sont en jeu. Le livre compte, je ne sais plus combien, 450 pages pour raconter cela, voilà. C'est un livre qui a fait le tour du monde.
Le cargo kurde dont on a parlé
avant. Le cargo kurde.
C'est échoué tout près.
Ça devait être il y a 5 ans, je pense. Non, pas tout à fait. 3 ou 4 ans. Et qui s'est échoué à l'endroit où j'avais écrit le livre, oui.
Ça, c'est quand même un clin
d'œil
prophétique.
Voilà, c'est ça, le camp des saints. Et en fait, le camp des saints est moins le roman d'un envahissement ou d'une invasion. Parce que on en a beaucoup parlé maintenant, pas du camp des saints, mais du fait que l'Occident est...
De l'immigration, tout simplement.
Vraiment, c'est ça, est vraiment très, très vulnérable à l'immigration, que ça peut avoir certaines conséquences. Hein. Mais c'est plutôt le roman de la renonciation de l'Occident. C'est plutôt le roman de la faiblesse, le roman du renoncement.
Point, Jean Raspail, important. Vous ne cherchez pas à expliquer ce renoncement et vous ne cherchez pas à délivrer de message.
Non, je ne cherche pas à délivrer de message, d'autant plus que la façon dont le livre se termine n'est pas du tout un message. Mais enfin, j'ai quand même, dans ce roman, essayé de décortiquer un certain nombre de mécanismes mentaux des Occidentaux face à ça. La presse, les belles consciences...
Oui, c'est exactement ça, mécanismes mentaux. Comment
voilà,
ça se passe
mécanismes mentaux.
Moralement dans la
Alors,
tête de l'Occidental.
J'ai essayé de décortiquer tout ça. Et c'est assez étrange, d'ailleurs, dans le livre, parce que on lit, par exemple, des appels de l'archevêque de Paris ou des éditoriaux de grandes radios ou de grands journaux, dont j'ai changé les noms, d'ailleurs, et tout. Et on s'aperçoit, je me suis aperçu que, finalement... C'est ça qu'on entend moins. Mais c'est ça qu'il y a 2 ou 3 ans, on entendait tous les jours.
C'est ce qui vous a valu le fait que...
Il se trouve qu'en ce moment, il semblerait qu'il y ait une prise de conscience un peu plus nette.
Mais la tendance de fond est là. C'est une tendance de fond que vous avez voulu voir.
Plus nette, du changement qui pourrait intervenir chez nous, en France et en Occident, si on était en état de minorité, si on devenait une minorité. Voilà. Vous savez, je fais attention... Je sais que les tabous sautent les uns après les autres, mais enfin, il en reste encore pas mal. Hein.
Alors, en tout cas, cette acuité, vous avez le fait de désigner comme une sorte de prophète un peu de l'engloutissement de notre monde.
Oui.
C'est un qualificatif. Alors, je me permets, puisque vous parlez justement des mécanismes mentaux, il y a un certain Benoît XVI.
Ah, c'est un petit détail, ça. Oui, parce qu'il y a un pape dans le camp des saints.
Mais il y a erreur sur la personne.
Il y a un pape dans le camp des saints. Et ce pape, naturellement, est un pape de l'époque où j'ai écrit le livre, c'est-à-dire, excusez-moi, votre sainteté, mais c'est un pape assez mou, très consensuel, je l'ai appelé, et qui, naturellement, appelle à la charité complète, il faut ouvrir nos bras, etc., tant pis pour ce qui arrivera, ouvrons un bras, voilà. Et j'ai eu la malencontreuse idée de l'appeler Benoît XVI, en 1978. 72, pardon, oui, il est parti en 73, le camp des saints, oui. Et sans imaginer qu'on aurait pu avoir un pape qui s'appelle Benoît XVI. Alors, les Polonais qui viennent de traduire le camp des saints m'ont téléphoné désespérant en me disant « Vous pouvez pas laisser passer ça ?» J'avais complètement oublié, alors j'ai fait une note en disant que...
Donc il y a une note, au début, vous n'avez pas changé l'édition polonaise.
Non. J'ai fait une note dans l'édition polonaise. Je ne veux pas changer une ligne. Alors, le pape de ce livre, du camp des saints, s'appelle toujours Benoît XVI. Et il est suivi d'une note en disant qu'il ne faut absolument pas le confondre avec le pape Benoît XVI actuel, pour lequel, en fait, j'ai le plus grand respect. Peut-être le dernier pape...
Bon, comme un pape qui a votre assentiment, on peut le dire. Hein, il est membre de l'Institut aussi, hein, donc il est amené
à... Ah oui, c'est vrai.
Eh bien oui.
Oui.
Voilà,
oui.
Peut-être l'aurons-nous un jour à Canal Académie, on fera un parcours de Benoît XVI.
Moi, je ne suis pas membre de l'Institut.
Oui, d'ailleurs, il va falloir que vous nous racontiez un petit peu les choses, de ce point de vue.
C'est important.
Bah, ça fait partie de votre parcours.
Peut-être. Hein.
On verra à l'occasion si on peut en dire un mot avec vous, Jean Raspail. Je rappelle que, écoutez, vous êtes avec nous pour ce parcours. On essaie de revoir un petit peu votre œuvre à la lumière. Alors oui, quand même, la question, parce que j'ai lu un passage qui concerne à la fois le camp des saints et Septentrion. Vous avez dit, ce n'est pas le même problème. Donc, ce n'est pas le même livre du tout. Mais il y a une interrogation fondamentale à la clé, c'est quand même la question de...
Non, c'est pas le même problème, parce que dans le
camp des saints... Il y a la survie d'un monde, quand même.
Dans ce camp, le camp des saints, nous sommes menacés par d'autres, tandis que dans Septentrion, nous sommes menacés par une part de
nous-mêmes.
Tout se passe aussi bien à l'intérieur de nous. Voilà. C'est pour ça qu'il est difficile à expliquer, le Septentrion. À part ça, parce qu'on parlera d'autre chose, il y a beaucoup d'aventures, dans ce... Il y a un côté épopée dans ce livre. C'est pas du tout un livre métaphysique.
Non, c'est un livre d'action. À l'image de cette couverture, justement, qui nous emmène vers le Septentrion, chez Robert Laffont. On va y revenir dans quelques instants. Jean Raspail avec nous. Parcours, c'est celui de Jean Raspail, écrivain et voyageur, qui est avec nous pour parler de son œuvre. On a beaucoup parlé de Septentrion parce que c'était une réédition, du Camp des Saints parce que c'est l'ouvrage qui vous a valu une grande renommée auprès du grand public, de nombreuses traductions, et vous nous l'avez dit, car c'est une info, peut-être un film à venir dans quelques temps, mais vous n'en savez pas plus pour l'instant. J'aimerais à présent, Jean Raspail, puisque votre œuvre est tout à fait vaste, alors à la fois sur les centres d'intérêt, puis vaste pour les latitudes qu'elle concerne, parler un petit peu de vos coups de cœur, de vos coups de cœur pour des régions perdues, des régions inconnues, des régions peut-être méconnues justement parce qu'elles sont un peu éloignées, mais peut-être des régions de liberté où vous avez trouvé, vous en tout cas, une façon de vous épanouir, même si ce n'est pas forcément un terme que vous aimez. Je retenais dans votre biographie, vous êtes toujours consul général de Patagonie ?
Oh oui, jusqu'à ma mort.
Ça, c'est un titre éternel.
Oui.
Comment ça se passe, ça, consul général de Patagonie ? C'est une... Quelles obligations ?
Ah, les obligations sont très faibles.
Depuis 1977.
C'est même plus tôt que ça. En fait, je connais bien la Patagonie. J'y suis allé pour 30 fois. Et la première fois en 1949, n'est-ce pas ? Et la dernière en 2001. Vous voyez ce que c'est, la Patagonie ?
Le cône sud.
C'est le cône sud de l'Amérique du Sud. Ben, c'est quand même pas mal, parce que ça fait près de 3000 km de longueur, et ça se termine en pointe avec le détroit de Magellan. De l'autre côté, il y a la Terre de Feu, n'est-ce pas ? Et au sud de la Terre de Feu, il y a le Cap Horn. Voilà. Tout ça fait un univers très, très peu peuplé, qui autrefois était occupé par des tribus indiennes qui n'ont jamais dû se compter plus de 300 000 personnes sur cet immense pays. Ça n'appartenait pas au Chili en Argentine auparavant. Le Chili et l'Argentine ont colonisé, sont partis à la conquête du Sud, comme il y a eu la conquête de l'Ouest aux États-Unis, que vers 1860-70. Mais c'est un pays qui faisait rêver, naturellement. Il y avait quand même des gens qui y étaient allés. On a des récits de Bougainville, du capitaine Cook, de Dumont-d'Urville. Des missionnaires protestants y étaient allés aussi. Des missionnaires catholiques s'étaient essayés. Et ça a fait rêver le fils d'un paysan de Dordogne, la Dordogne, qui était notaire à Périgueux, qui avait acheté une étude avec les fonds de son père, notaire à Périgueux.
Un certain Antoine.
Qui s'appelait Antoine de Tounas, et qui, avec quelques copains, le dimanche, rêvait de la Patagonie et de la Rocanie, qui est la partie de la Patagonie du côté pacifique, et voulait partir à la conquête de son royaume pour aller régner sur les Indiens. Il faut dire que c'est une époque où 1860, où il y avait peu de républiques. L'idée de royaume et d'empire était la nature normale des gouvernements.
Une idée
chez
qui
nous,
vous est chère.
En France, c'était le Second Empire.
Hein. On y reviendra.
Voilà. Bon, alors, c'était, comment dirais-je, une sorte de jeu. Mais Antoine de Tounas, qui était têtu comme une mule, qui avait beaucoup de qualités, mais qui était certainement mythomaniaque et qui avait une idée fixe, lui, il est parti là-bas conquérir son royaume. Et naturellement, toute sa bande de copains a dit « Nous, on faisait ça pour jouer, on ne veut pas y aller. » Et il a fait preuve d'un culot monstre et il a eu beaucoup de chance parce que il est arrivé en Patagonie après moult aventures et il est arrivé au moment où les Chiliens, les Argentins étaient en train de commencer la conquête du sud et des tribus. Et il leur a dit, écoutez, moi je viens, mon cousin, le grand empereur de France, m'envoie. Naturellement, là, il mentait. C'est un mytho, il mentait. Mon cousin, le grand empereur de France, m'a envoyé pour me mettre à votre tête. Nous allons repousser l'envahisseur, etc. Bientôt vont arriver des armes par bateau, c'était pas vrai non plus. Et je me mets à votre tête. Et il s'est fait acclamer par les tribus cavalières du nord de la Patagonie. Les Puelch, les Tehuelch, etc. Et les Mapuche, qui existent toujours au Chili. Et puis il est arrivé ce qui est arrivé, comme il avait menti, rien ne s'est produit, naturellement. Il a été trahi à l'instigation des services de renseignement chiliens et argentins, trahi par ses propres sujets. Il a été arrêté, Il a été mis en prison, où il est resté un an et demi en prison. Il était jugé, considéré par la justice comme dément, comme fou, grâce à l'intervention de la Légation de France, et rapatrié en France, où il a mis le pied à terre à Brest, et il a dit « Je suis le roi de Patagonie ». Et toute sa vie, alors qu'il avait régné, si vous voulez, 3 semaines, hein, toute sa vie, il a joué le rôle de roi de Patagonie, à Paris notamment, etc. Alors voilà, j'arrête là-dessus sur ce personnage assez étrange, avec des facettes désagréables et des facettes étonnantes, personnage très complexe, mais qui représente quand même l'accomplissement d'un rêve. Et il est heureux, si vous voulez, qu'il ait raté son coup. Parce que c'est encore plus beau. Quand il est mort dans la misère, par exemple, à Tourtoirac, en Dordogne, le petit village où il était né, il y avait simplement ses neveux, il n'a pas eu d'enfant, il n'était pas marié. Ses neveux autour de lui, et, d'ailleurs tout le monde dans le village le considérait comme un dingue, et sa dernière parole, ça a été, il faut quand même le faire pour un mourant, ça a été, quand je serai mort, crier « Vive le roi !» L'histoire est tellement belle, j'ai écrit un livre dessus.
Moi, Antoine de Toulouse, en 76, roi de Patagonie.
Mais avant d'écrire ce livre, j'avais déjà dans ma tête, si vous voulez, fondé cette. Disais que c'est dommage de laisser tomber ce royaume, et autant, puisque c'est un royaume mythique, autant le conserver. Et avec quelques amis, on s'est mis à jouer à ça. Et il se trouve que le jeu a pris une importance énorme, quasiment planétaire d'ailleurs, et que le royaume de Patagonie n'existe pas naturellement. Il n'a pas de gouvernement, il n'y a plus de roi. Le roi est Antoine de Tounas, il est enterré à Tourtoirac en Dordogne où il règne pour l'éternité, mais il est représenté non pas par une ambassade, il n'y a pas de gouvernement non plus, mais simplement un consulat général. Le consul général, c'est moi. Et il y a 230 vice-consuls à travers le monde.
Ah, quand même.
Dans beaucoup de pays étrangers, oui.
Et c'est vous qui êtes à l'initiative de cette fédération, en quelque sorte?
Ça fait bouche de neige. Mmh. Alors, on avait un site, je dois vous dire, puisqu'on est sur Internet, et je l'ai fait fermer 15 jours plus tard, vu le nombre de... comment dire, de questions idiotes et de délire qui est arrivé par flot de gens qui comprenaient rien à cette histoire-là. Faut faire très attention quand on soulève quelque chose. Donc, on a fermé le site et tout se passe simplement de bouche à oreille et par correspondance. Voilà.
Mais ce que vous aimez, Jean Raspail, dans cette histoire, c'est le fait d'écrire une sorte de rêve.
C'est une patrie de rechange.
Une patrie de rechange.
Ouais.
Mais c'est une chose qui ne peut exister que dans l'imaginaire.
Oui.
Ou dans des périodes antérieures, parce qu'on n'imagine pas aujourd'hui quelque chose de ce type, ne serait-ce que réalisable, même sur le plan du rêve.
Oui, oui. Il y a des
certaines façons.
Il y a des gens qui ont essayé de faire des faux pays indépendants. Il y a eu des canulars là-dessus. Il y a une ancienne plateforme pétrolière. C'est Skyland, je crois, que c'était en genre principauté. Il y a cette espèce d'aimable fantaisiste près de Gênes, sur la côte italienne, qui son pays s'appelle le Cévoudra, ou je ne sais plus.
Oui, un village
voilà,
indépendant.
C'est ça, voilà. Mmh. Mais ça, ce sont des... comment dirais-je, ce sont des canulars, ça ne repose sur rien. Tandis que l'étonnant du royaume de Patagonie, c'est qu'il a existé ne serait-ce que peu de temps. Il en reste d'ailleurs des pièces de monnaie, puisque le roi a fait frapper des pièces, il en reste une constitution, il reste des documents d'archives, il reste les décrets que le roi a pris pour s'autoproclamer roi, tout ça est consultable. Et donc, c'est à la fois réel, et on joue sur les deux tableaux, si vous voulez.
Évidemment, totalement singulier.
Voilà, bien sûr.
Et mythique. Le mythe, c'est ce que vous appréciez peut-être le plus, je ne sais pas, non? C'est une façon de...
En plus, c'est une patrie de rechange. Hein. Ouais. Moi, quand j'en ai marre d'être français, ce qui peut arriver quand j'entends des nouvelles qui ne me conviennent pas ou que j'estime à tort ou à raison, peu importe que mon pays ne fait pas ce qu'il devrait faire, je me dis, après tout, je m'en fiche, je suis sujet patagon. Voilà.
Vos autres terres de prédilection, Jean Raspail?
Ah, écoutez, il y en a eu beaucoup.
L'Amérique, bien sûr.
Oui, il y en a eu beaucoup. Et le sud de la Terre de Feu, c'est une autre Patagonie. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec Antoine de Tounas, avec les 3 dernières tribus d'Indiens nomades de la mer qui sont disparues maintenant. Les 2 dernières sont mortes il y a quelques années. Ça, c'est une histoire fabuleuse parce que c'est le bout du monde. Ce sont des gens qui ne faisaient pas partie de l'humanité, si vous voulez, parce qu'ils ont découvert qu'ils avaient des semblables, simplement quand Magellan est arrivé en 1520. J'ai écrit plusieurs livres là-dessus, hein, dont, je vais donner le titre parce que c'est un livre dont je suis très fier, qui s'appelle « Qui se souvient des hommes ?». Et puis il y a aussi une autre aventure que j'ai vécue en partie, c'est celle de l'Amérique française, qui était complètement négligée chez nous.
En canot sur les chemins du roi.
Oui, ça c'est le livre que j'ai écrit il y a 2 ans, En canot sur les chemins d'eau du roi, mais qui est le récit de l'expédition que j'avais accomplie avec 3 garçons, on était 4 donc. On avait à l'époque 22-23 ans, puis c'est, je vous parle de 1949-1950, n'est-ce pas? En canot, c'est-à-dire les canoës pour parler français, mais on dit canot, à l'aviron, bien entendu. Et tout ceci de Québec jusqu'à la Nouvelle-Orléans, en remontant par toutes les rivières difficiles canadiennes, l'Ottawa, les grands lacs américains, le Huron, Michigan et le Mississippi jusqu'en bas. Or, c'était un voyage qui avait un sens historique très profond. C'est le chemin des Français qui ont découvert, puis... Non pas, on peut pas dire coloniser, mais administrer toute cette région. Il n'y a pas que le Québec qui est minuscule, si vous voulez. Si on le compare, le Québec s'arrête quasiment à Montréal, n'est-ce pas? Si on le compare à l'immensité du territoire qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, jusqu'au traité de Paris de 1763, c'est un territoire qui était français. C'était presque la moitié des États-Unis. Voilà. Tous les États au bord du Mississippi, tout l'Ohio, le Michigan, l'Illinois, tout ça, c'était français, entièrement français. On a oublié ça. Et ça a été découvert par les Français. Ce ne sont pas les Anglais qui ont découvert ni le Canada d'ailleurs, ni l'intérieur des États-Unis. Ils étaient cantonnés en Nouvelle-Angleterre. C'était des paysans et des marchands. Ils n'avaient pas beaucoup envie d'aller voir ailleurs comment ça se passait. C'était des gens qui étaient très terre à terre. Enfin, c'est pour ça que ça marche d'ailleurs. Et ce sont les Français qui ont fait l'expansion. On leur doit tout, là-bas, hein. On leur doit la découverte de tout l'intérieur du Canada jusqu'aux montagnes rocheuses. Tout ça a commencé avec Champlain, dont on va fêter prochainement, en juillet, le 4e centenaire de la fondation de Québec par Champlain. Et puis après...
C'est encore jalonné de quantité de non-français.
Ah oui, au Québec, oui. Mais aux États-Unis...
Au Mississippi aussi, oui, dans le Mississippi aussi.
Il y a encore énormément. Est-ce que vous savez que la ville de Saint-Louis, Missouri, hein, c'est sur le bord du Mississippi. Est-ce que vous savez que cette ville a été fondée par des Français juste avant le traité de Paris en 1762 et que la première population de la ville de Saint-Louis, comme de quantité de villes sur le parcours, Chicago, même chose, Saint-Paul, même chose, Minneapolis, même chose, était une population française. Bon, ils étaient quelques dizaines, alors que maintenant ce sont des millions d'individus. Mais c'est ça. Et à Saint-Louis, d'ailleurs, les Américains ont quand même élevé la statue sur une place de Saint-Louis envahie par la circulation. Et c'est la statue de Louis IX. Ouais, c'est quand même curieux. Non, on a tout découvert et on a tout perdu. Parce qu'on était, les Français, 5 000 pour tenir 35 États des États-Unis. Si
Est-ce qu'on peut en vouloir à Louis XV ?
On peut en vouloir à Louis XV sur la manière dont on a abandonné. C'est une spécialité française, n'est-ce pas ? On perd, alors on tourne le dos et on laisse débrouiller tout seul les gens qu'on était censé administrer, protéger, et le petit peuple. On a fait ça souvent. Plus récemment, si vous voulez, on l'a fait d'une certaine manière en Algérie, on l'a fait d'une certaine manière au Tonkin, un peu plus tôt. On l'a fait d'une certaine manière après les plébiscites, votant le rattachement de la Sarre et de la Rhénanie à l'Allemagne. Ça, c'est au début d'Hitler. Il y avait des populations et on a tous laissé tomber. Et là, on a laissé tomber les Canadiens, d'une part, et les Québécois qui sont restés tout seuls, avec juste leur curé de paroisse. et on a laissé tomber les tribus indiennes et les quelques milliers de Français qui n'ont pas été rapatriés. Mais une grande partie des villes de là-bas portent le nom de forts, de forts français. Voilà. Et c'est extraordinairement émouvant de savoir que tout ça a été fait. On ne circulait que par voie d'eau. Il n'y avait pas de... C'est bien avant le chemin de fer. Tout. Tout s'est fait par les rivières et les...
Les chemins d'eau du roi.
Imaginez les grands canots avec qui pouvaient porter une vingtaine de passagers, où il y avait les soldats de Louis XV avec leurs tricornes, un officier, un guide indien, etc. C'était ça. C'est l'Amérique française. Et il y a des gens qui s'en souviennent sur le parcours, et j'ai été très surpris en faisant ce voyage de retrouver des souvenirs.
Aujourd'hui, ce serait possible de refaire ce qui a été fait dans les années 50 ? Difficilement ?
Ça serait certainement beaucoup plus facile, parce que dans les années 50, c'est même au début des années 50, 49, les rivières étaient presque intactes. Je veux dire, la nature était quasiment la même que celle qu'avaient trouvé les gens au 18e et au 17e siècle. Par exemple, sur la rivière Ottawa, qui est une immense rivière qui monte et qu'on est obligé de monter à contre-courant, tous les rapides étaient là. Maintenant, il y a des barrages, n'est-ce pas ? Sur le Mississippi, c'est la même chose. C'était un fleuve très sauvage. Il est encore assez sauvage. Et on peut pas complètement domestiquer le Mississippi. Mais maintenant, on ne pourrait pas. L'ambiance serait plus du tout la même. La nature n'est plus du tout la même. Nous, on chassait pour se nourrir. Maintenant, c'est impossible.
Oui, ça, c'est impossible.
J'ai eu l'occasion de voir un Québécois qui est venu me rendre visite chez moi il y a quelques jours, qui a fait un peu de canoë par là-bas. Et je lui racontais ça. Il me dit, maintenant, c'est vrai, il n'y a plus. Le gibier est parti. Il y en avait partout. Il suffit de lever son fusil pour tirer et le déjeuner est tombé, enfin. Et maintenant, d'abord, on n'a pas le droit, en fait. On campait n'importe où. Les rives étaient... Tout a beaucoup changé. D'ailleurs, tout a changé dans le monde dans les 60 dernières années. On ne le reconnaît quasiment plus quand on a eu la chance de vivre quand il était encore semblable à ce qu'il était. Voilà.
Jean Raspail, vous nous parlez de l'Amérique avec une certaine nostalgie, puis la nostalgie aussi d'un monde davantage préservé qu'il ne l'est aujourd'hui. Est-ce que vous ne devriez pas, pardonnez la provocation de cette question, est-ce que vous ne devriez pas être un écologiste, un défenseur de l'environnement ?
Ah, mais ça c'est... Bien sûr que si. Oui, par exemple, j'ai appartenu, c'est la seule comité auquel j'ai appartenu, c'est celui pour la défense de la Loire sauvage. Finalement, d'ailleurs, on est arrivé à quelque chose, mais maintenant, quand on pense au Yangtze actuellement, c'est terrifiant, enfin, ce que les Chinois sont en train de faire là-bas.
Bon, avec l'immense barrage.
Non, je veux pas arriver dans ce débat. D'abord, l'écologie est devenue un moyen dont beaucoup de gens se servent.
L'eau n'est pas si pure que ça.
Voilà. Alors, déjà, pour ça, je marche plus. Ensuite, il y a un nombre tellement monstrueux d'inepties qui sont proférées à propos des menaces dans tout genre. On commence à revenir là-dessus, je vous signale. Hein. Voilà. Là aussi, il y a un effet de mode terrible qui fait que plus personne, n'a un jugement, enfin peu de gens ont un jugement sain là-dessus. On fait un peu n'importe quoi, d'ailleurs. Quand on pense qu'on songe que parce qu'on va aller à bicyclette, ça va, dans les rues de Paris, ça va sauver la planète, faut vraiment être débile pour le croire. Pas pour le proférer, non, mais pour le croire.
Pour revenir à Septentrion, vous voyez cela comme un instrument de massification ?
Ouais, bien sûr.
De conditionnement.
En revanche, apprécier la nature et essayer qu'elle ressemble encore aux souvenirs qu'on en a eus, ça c'est un très beau combat, bien entendu.
Jean Raspail, une dernière réflexion, si vous le voulez bien. C'est votre réflexion sur le roi, la royauté, parce que si on prend l'ensemble des titres de vos livres, et bien sûr, il faudrait pour cela plusieurs heures pour l'évoquer. Alors, les royaumes de Borée.
Oui.
S'il y a le président, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, on a le jeu du roi.
Le président, c'est pas un livre très favorable à la République.
Oui. C'est vrai que je ne me référais qu'au titre.
Oui. Eh ben, vous
Sire,
avez...
évidemment.
Sire, qui est le premier. Il y a moi, Antoine de Tounas, roi de Patagonie.
Voilà,
c'est
encore le roi.
Il y a Sire, alors ça concerne la France. Il y a ensuite le roi au-delà de la mer qui concerne également.
Voilà, le roi de la mer en canot sur les chemins d'eau du roi. On en a dit un mot.
Oui.
Vous avez une amitié particulière.
Ouais, j'ai toujours pensé, je continuerai à penser que les pays qui ont encore la chance d'avoir un souverain. Je vous rappelle qu'à part des monarchies, je parle en Occident, hein, Attention, hein, ne mélangeons pas les monarchies du Golfe, extraordinairement civilisées, comme on le sait, les monarchies du Golfe avec l'Occident, n'est-ce pas ? Ouais. Les pays d'Occident qui ont eu la chance de conserver un souverain, il y en a quand même 7 ou 8, si ce n'est plus. Hein. La grande chance, justement.
Le privilège.
Le privilège, c'est ça. De pouvoir se référer à quelqu'un qui, même s'il n'a pas de pouvoir, incarne la nation et son passé. Un président de la République élu, quel que soit, n'incarne pas véritablement la nation. Il la représente pour un petit temps. Il ne l'incarne pas. Voilà. Et le recours purement d'ordre presque religieux, si vous voulez, inconsciemment, ou d'ordre mythique, on a recours en soi et on se dit, il y a le souverain, il représente la nation. Je ne sors pas de là. S'il n'y a pas une étincelle de sacré dans le pouvoir n'a pas de véritable justification, sinon la justification qu'il faut bien pouvoir pour que les choses fonctionnent à peu près. Mais le pouvoir qui a une étincelle de sacré dans la durée et la pérennité et depuis longtemps, n'est-ce pas, selon un même système et souvent selon une même famille, avec... on pourrait le penser une certaine grâce divine, ça c'est irremplaçable. Voilà. Maintenant, je sais que dans mon pays, ça n'arrivera jamais. Je le déplore, mais ça n'empêche pas que je suis royaliste.
Je termine par une phrase de Tacite qui disait « Qui recherche la vérité se détourne de la multitude ». Ça vous irait ?
Oui, en général, ce qui vient de la multitude n'est pas applicable à tout le monde, chose étrange.
Pas applicable aux esprits libres.
Oui.
Merci beaucoup Jean Raspail. Merci d'être venu pour ce parcours à Canal Academy. On pourra naturellement se référer à l'ensemble de vos œuvres sur votre site internet dont on rappelle qu'il est extrêmement bien fait, jeanraspail.net. Je rappelle aussi Septentrion, c'est une réédition, ça vient de reparaître chez Robert Laffont. C'est un roman de 1979 dont vous nous avez parlé. Le Camp des Saints, j'en ai dit un mot tout à l'heure, vous en avez parlé peut-être au cinéma, c'est une info que vous nous avez délivrée. En tout cas, il connaît toujours un succès puisque vous le disiez aussi au début de cet entretien, vous avez la chance que l'ensemble de vos ouvrages, ou du moins une grande partie d'entre eux, soient réédités. Merci beaucoup d'être venu à Canal Academy.